De minuit à 7 heures, première partie, chapitre 4. Deux associés. À travers l'étendue neigeuse, malgré le brouillard et la nuit qui venait, la troïka, guidée par la main sûre de Baratov, filait vite. Gérard restait silencieux, mais Baratov reprit la conversation. « Alors, mon message t'est bien parvenu ?»«
Comme tu vois. » Puisque j'ai fait ce que tu voulais.
Le plan était clair, hein? Les indications précises?
Oui, suffisamment.
Je te félicite encore. Une expédition pas commode. Gérard eut un geste d'indifférence. Baratov reprit. Avant d'allumer le signal, je m'étais mis d'accord avec les agents polonais.
Oh, sans leur dire ce qu'ils n'avaient pas besoin de savoir.
Il eut un rire silencieux, et après un autre silence,
« Ils nous attendent chez moi, tu sais. »«
Qui ça? Ils ?» demanda Gérard.
« Eh bien, mais nos deux... comment dire... clients. La comtesse Valine, d'abord. Elle est arrivée à la ville il y a 2 jours. Elle est descendue à l'hôtel, mais elle passe son temps à venir me demander s'il n'y a rien de nouveau. »
Si je crois que tu réussiras.
Elle est folle d'inquiétude.
Dame, c'est tout ce qui lui reste au monde, sa fille et ses 5 rangs de perles.
Elles valent une fortune, ces perles, dit Gérard.
C'est vrai, tu t'y connais aussi.
Elles sont belles, tant mieux. C'est un avantage pour tout le monde. Je suis d'accord avec la comtesse pour les conditions.
Oh, je ne l'écorche pas. Il eut de nouveau son rire silencieux. Gérard lui jeta un regard de côté, mais ne dit rien.
« Alors, tu penses, son anxiété à cette femme ?» continua Baratov.
« Elle ne vit plus. Vrai, en dehors de la question d'affaires, elle m'intéresse. Tu comprends, on ne peut pas voir une femme jolie comme elle. »
Gérard, cette fois, haussa les épaules.
« Elle est si jolie ?» demanda-t-il sèchement.
Baratov, à son tour, lui jeta un regard de côté.
« Oui, »
dit-il sèchement aussi. Mais il voulait ménager son compagnon et demanda d'un ton aimable
« Et pour l'autre, tu as naturellement réussi ?»«
Oui, pour le vieux qui attend son bric-à-brac. Il est à la villa aussi, tu sais, et c'est encore un numéro.
Ça a vraiment de la valeur, son trésor, comme il dit ?»
Une très grosse valeur.
Lui non plus, tu ne l'écorches pas,
demanda Gérard avec ironie.
Tu as toujours le mot pour rire, dit Baratov pincé.
Cette fois, le silence tomba entre eux. Une méfiance réciproque, une antipathie, fondée sur des différences essentielles de caractère, demeurait latente sous les apparences cordiales de leur association bizarre. Périlleuse pour l'un qui agissait, intéressée pour l'autre qui profitait largement des opérations qu'il indiquait. Cette association datait de la guerre. Le russe, Ivan Baratov, aventurier de finance d'une grande énergie et d'une remarquable habileté, spéculateur audacieux et équivoque, ne reculant devant aucune besogne, pourvu qu'elle lui rapportât, avait dû fuir la Russie lors de la Révolution et trafiquait dans les parages de la mer Noire quand il avait fait la connaissance de Gérard, jeune soldat français engagé volontaire. Baratov, qui possédait à un haut point la connaissance des hommes, avait reconnu en Gérard d'incomparables qualités de courage, d'audace, de prudence aussi, qui devaient faire de lui un agent hors ligne pour les entreprises qui permettaient ces temps troublés. Après l'armistice, Gérard, démobilisé, était venu, sur la demande de Baratov, le retrouver en Pologne. Le Russe, dès lors, l'avait employé à toutes sortes de besognes de contrebande, besognes facilitées par les relations que Baratov entretenait avec les agents subalternes de la police bolcheviste. Gérard, sous des déguisements divers et muni de papiers en règle, procurés par ses correspondants policiers de Baratov, faisait des expéditions dangereuses pour le service de particuliers, clients du russe. Il préparait et facilitait l'évasion de personnages qui, leur fortune se trouvant à l'étranger, pouvaient rétribuer grassement leur délivrance. D'autres fois, il retrouvait dans des cachettes signalées à Baratov des titres, des bijoux, des objets d'art qu'il rapportait en Pologne et remettait à son associé. Celui-ci se chargeait de les transmettre à leur propriétaire exilé, dont il continuait parfois la seule ressource, comme dans le cas de la comtesse Valine. Cette association n'allait pas sans heurts. Baratov se méfiait de Gérard, qui, parfois, se refusait aux opérations qui lui semblaient indélicates, et, parfois, agissait avec une initiative qui contrariait les plans arrêtés dans l'esprit sans scrupule et sans pitié du russe. Mais Baratov avait besoin de Gérard. Sur le butin rapporté par celui-ci, il prélevait, avant de le remettre à ses propriétaires, une forte dîme. En relation dans toutes les grandes villes avec des gens douteux, il savait tirer parti des richesses malhonnêtement acquises ainsi. Et bien que la police internationale eût l'œil sur lui, bien qu'il eût failli être impliqué en Autriche dans une vaste affaire d'escroquerie, il avait, par toutes ses opérations louches, acquis une énorme fortune. Une fortune qui se chiffrait par dizaines de millions et dont il devait une bonne part à l'audace et à l'adresse de Gérard. Gérard, lui, ignorait les manœuvres de son associé. Peut-être s'en doutait-il, mais il ne voulait rien savoir de précis. Caractère complexe, incapable de se livrer en personne à un acte qu'il jugeait mauvais, tenant de sa famille française et de son éducation un fond solide de propreté morale, il se laissait aller quelquefois, par suite des événements, à une certaine nonchalance de conscience. Désintéressé, ou plutôt insouciant de l'argent, il acceptait sans discussion la part relativement faible que l'autre lui attribuait. Cette part, d'ailleurs, permettait à Gérard de vivre largement. Et il n'eût pas pu renoncer à cette vie et reprendre du jour au lendemain une existence banale, paisible, médiocre. L'aventure était son élément. Il aimait les sensations fortes, l'action, le risque, il aimait réussir, et réussir l'impossible. Il aimait la reconnaissance de ceux qu'il sauvait, ou dont il sauvait les parents ou la fortune. Il aimait surtout, et par-dessus tout, séducteur né, conquérir, là où il passait, les femmes. Bien peu de femmes en sa présence, attirées par son charme et confiante en sa gaieté juvénile, restait indifférente. Et bien peu qui ne se troublasse pas sous le regard tendre et persuasif de ses yeux bleus. Il le savait, et sans jamais aimer, se faisait aimer, ou du moins amollissait la volonté des plus vertueuses et des plus rebelles. Une vingtaine de kilomètres séparait la frontière de la ville aux abords de laquelle habitait Baratov. La Troïka parcourut rapidement cette distance, et Baratov l'arrêta devant sa maison. Une maison sans luxe, mais confortable, qu'entourait un jardin. Pendant qu'un vieux domestique venait prendre la bride des chevaux, les deux hommes mirent pied à terre. Baratov s'empara des besaces et, suivi de Gérard, qui dans ses bras portait le sac, entra dans le jardin. Au seuil de la maison parut une jeune femme qui se précipita au-devant d'eux. « Stasia, ma fille » demanda-t-elle d'une voix étouffée. « Tout à l'heure, cher ami, tout à l'heure !» dit Baratov. « Ne nous pressons pas, et que je vous présente d'abord mon associé Gérard, dont je vous ai tant parlé. Et alors, je vous en prie, vite, répondez, ma fille !» Gérard a trouvé les perles. « mon Dieu, Estacia !» gémit-elle sanglotante. Elle entra dans la maison, et regagnant la pièce d'où elle venait, un salon, élégamment meublé, elle se laissa tomber sur un siège, la tête dans ses mains. Pour elle, le silence des deux hommes à propos de son enfant, elle l'interprétait comme un échec. Sa fille était perdue. Gérard, toujours portant son fardeau, l'avait suivi sans mot dire. Baratov, lui, muni des besaces, entraînait vers une pièce voisine le personnage qu'il avait appelé le vieux. C'était un vieillard décharné et affavori qui avait l'apparence délabrée et hautaine pourtant, d'un gentilhomme tombé dans le malheur. Ils disparurent tous deux et aussitôt on entendit le bruit d'une violente discussion. Quelques minutes s'écoulèrent. Dans le salon, la comtesse Valine essuya ses larmes et se redressa, avec un effort visible pour reprendre un peu de calme. À la fin, elle dit douloureusement à Gérard « Alors, ma fille est perdue, n'est-ce pas? Vous n'avez pu la retrouver, monsieur? Dites, je vous en supplie. » Gérard regardait la jeune femme. Très blonde, mince, élancée, dans un manteau noir très simple, elle était belle, et les larmes qui coulaient encore de ses grands yeux, le désespoir qu'exprimait son visage éploré, donnaient à sa beauté un charme pathétique que le jeune homme admirait en connaisseur. Il éprouvait une grande pitié, mêlée de ce sentiment trouble et confus que lui inspirait toute jolie femme. Et, dans ces cas-là, une telle allégresse le soulevait, sa nature heureuse et insouciante le portait à tant de bonne grâce, presque naïve, qu'il se mit à sourire doucement de son air le plus amical. Elle tressaillit. S'il pouvait sourire devant son chagrin, est-ce que cela ne signifiait pas... Sans un mot, délicatement, il ouvrit la toile du sac et, du geste, montra l'enfant. « Mon Dieu !» gémit la comtesse Valine. « Elle est morte ?»« Non, » dit-il en riant, « elle dort !» Et il en était ainsi. Après tant d'épreuves, brisées d'émotions, elle s'était endormie dans la troïka qui la berçait. La comtesse, délirante de joie, se jeta à genoux près de sa fille et la réveilla sous ses baisers. « Stacia, ma petite, ma chérie » balbutiait-elle en étreignant l'enfant qui se serrait contre elle. Ensuite, elle se retourna vers Gérard, lui saisit les mains et les lui embrassa, criant sa reconnaissance. « Bah ! » dit-il, « je suis si heureux d'avoir réussi. Et ma petite compagne de voyage a été tellement courageuse. « Oui, oui, » murmurait-elle, « mais c'est vous qui l'avez sauvée. Sans vous, elle était perdue pour moi. Comment vous remercier d'avoir risqué votre vie ?» Il sourit de nouveau et il s'approchait un peu de la comtesse quand il s'arrêta. Dans la pièce voisine, les voix s'élevaient plus fortes et l'on entendait celle du vieillard, indignée et stridente, qui proférait « C'est une escroquerie ! Plus de la moitié de mes bijoux ?» « On m'avait bien prévenu que vous n'étiez qu'un voleur et que toute votre bande... » La porte fut ouverte avec fracas et Baratov, furieux, poussa dehors le vieillard qui l'apostrophait et l'injuriait. La comtesse écoutait, toute droite, livide. Elle aussi avait dû se soumettre à la rapacité de Baratov. Gérard fit un geste d'irritation et prononça « Quelle brute que ce Baratov !» « Je me doutais bien. Je vous en prie, madame, ne restez pas un instant de plus. Votre place n'est pas ici. » Mais comme il se disposait à la conduire dans le jardin, Baratov revint, fort agité, et s'écria. « Eh bien, Gérard, et les perles? Tu m'avais dit qu'elles étaient dans la besace. Je ne les ai pas trouvées. » « Ah, tiens, c'est vrai, » répondit Gérard d'un ton négligent. « Elles sont dans ma poche. » « Tu comprends, c'était plus sûr. »« Donne !» dit Baratov avec impatience. « Comment ça, donne ? Mais ces perles ne t'appartiennent pas, Baratov. »« Si, en partie. Trois rangs reviennent à la comtesse, deux à nous. Je te l'ai dit, nous sommes d'accord, elle et moi. »
Accord qui ne compte pas, puisque je n'ai pas été consulté, dit Gérard d'un ton plus ferme. Ses perles appartiennent à la comtesse. Moi, j'ai changé d'avis, je ne veux rien.
Le Russe haussa les épaules.
Ça te regarde, moi je veux ma part, donne.
Pas une perle, Baratov.
Mais tu es fou, gronda Baratov. Alors, nous aurions travaillé pour rien?
Gérard observa la comtesse qui ne bougeait pas et sa fille, contre elle, les écoutait anxieusement.
« J'ai travaillé pour mon plaisir, Baratov, et pour une autre raison. »«
Laquelle ?»«
Pour conquérir quelque chose qui me semble supérieur à tout. »«
Quoi ?»«
Pour que madame ait la gentillesse de me sourire. »
Son regard croisa celui de la jeune femme et la déconcerta. Elle rougit, mal à l'aise.
« Je dois partir, » balbutia-t-elle. « L'enfant est lasse, je vais la faire dîner et la coucher. Demain, je quitterai la ville. »
Gérard s'inclina. Elle passa devant Baratov et devant lui. Il la suivit dans le jardin qu'ils traversèrent. À la porte, il déclara « Ce soir, à votre hôtel, je viendrai et vous remettrai les 5 rangs de perles. » Elle ne répondit pas et s'en alla.
Gérard retourna aussitôt près de Baratov qui allait et venait dans la pièce en frappant des pieds.
« Mais tu es fou !» s'écria le Russe. « Qu'est-ce qui te prend? Des perles de toute beauté, le plus clair de notre bénéfice. Ah, voyons, donne-les-moi. »
« Non, Baratov, j'ai dit pas une perle. »
« Mais c'est mon bien dont tu disposes ainsi. »
« Non, Baratov, celui de la comtesse Valine. »
« Une femme que tu ne reverras jamais. »
« La récompense me suffit. »«
Tu as dit le mot, » ricana l'autre. « Une récompense en nature, hein ?»«
Baratov, je te conseille de ne pas insister. Tu sais, j'ai entendu tout à l'heure tout ce qu'il t'a reproché, le vieux. Je me doutais bien de toutes les machinations secrètes en arrière de moi. Mais à ce point-là, non, je ne marche plus. »
Les deux hommes se mesurèrent du regard. La colère agitait Baratov, balançant sa prudence naturelle. Il avait lui-même souhaité conquérir la comtesse Valine, qui lui inspirait un désir brutal. Gérard voulait, il s'en rendait compte, le supplanter. Gérard, dont il enviait toujours ses succès féminins et qui allait obtenir ce nouveau succès en faisant de la générosité, en le frustrant, lui, Baratov. Le Russe eut une hésitation. Les perles étaient là, dans la poche de Gérard. Allait-il essayer de les prendre de force? Il n'osa pas et recula en grommelant.
« Est-ce qu'on dîne ?» demanda Gérard du ton le plus naturel. « J'ai une faim de loup. Ah, Baratov, tu n'as pas idée de ce que furent ces derniers jours en Russie. Quelle besogne! Veux-tu que je te raconte ?»
Après le dîner, Gérard monta dans la chambre qu'il occupait chez Baratov, remplaça ses misérables vêtements par une tenue élégante, redescendit et dit au Russe, tranquillement, « Bonsoir, je sors. » Baratov, sachant trop où il allait, ne répondit que par un furieux haussement d'épaule. Gérard n'y prit pas garde, alluma une cigarette et gagna l'hôtel où était descendue la comtesse Valine. La jeune femme, au premier étage, occupait 2 pièces. Dans l'une de ces pièces, elle avait couché sa fille. Elle avait vu l'enfant s'endormir aussitôt d'un sommeil profond et paisible. Elle avait ensuite, laissant la porte ouverte, regagné l'autre pièce et s'était assise sur un canapé, un livre à la main. Elle ne lisait pas, elle attendait. Elle tressaillit quand on lui annonça Gérard. Il parut, élégant, souriant, et quelque chose d'impérieux était en lui qui imposa dès l'abord à la jeune femme une domination contre laquelle elle essaya vainement de réagir. Gérard, plein de galanterie, lui baisa la main. « Bonsoir, chère madame. J'espère que vous êtes remise de vos émotions. Et comment va mon amie Stacia ?»« Elle dort là, dit la jeune femme, désignant la porte ouverte.
Alors, vous permettez que je ferme cette porte? Le bruit de nos paroles pourrait la réveiller.
Gérard avait dit cela du ton le plus simple, mais une appréhension croissante envahit la jeune femme. Elle le vit fermer la porte, et bien qu'il le fît vite et sans aucun bruit, elle s'aperçut qu'il poussait le verrou. Il revint à elle, et tirant de sa poche les perles, les posa sur la table.
« Voici, madame, ce qui vous appartient. C'est le second trésor que je m'étais chargé de vous rapporter. Il est, certes, à vos yeux, moins précieux que votre fille.
Monsieur, je vous répète que ma reconnaissance est profonde. Ce que vous avez fait pour moi, sans me connaître, avec tant de courage et de désintéressement... » Elle cherchait ses mots, balbutiait, gênée par le regard qui pesait sur elle, de cet homme qu'elle ne connaissait pas quelques heures avant et qui surgissait tout à coup dans sa vie, l'inquiétait et l'attirait.
« Je ne suis pas désintéressé, dit-il. Je cherche toujours dans l'effort que j'accomplis ce qui peut me soutenir et m'exalter. Ainsi, peut-être n'aurais-je pas tenté le destin et risqué de succomber en ramenant Stacia, si je n'avais pas su que vous êtes jolie. »
Il parlait franchement et gaiement, et il ajouta « Quand on se dit qu'on donnera de la joie à une femme, et que l'on sera récompensé par son remerciement, par son bonheur, par son émotion, je vous assure, c'est délicieux. » Elle rougit et garda le silence.
« Comment vous appelez-vous » demanda-t-il.
« Mais vous le savez, dit-elle étonnée, je suis la comtesse Valine. »
« Non, votre prénom. »
Mais pourquoi ? » ?»«
J'insiste. »
« Natacha, murmura-t-elle. »
« C'est charmant. C'est le nom de l'héroïne d'un roman pour enfants que j'ai lu tout petit. Une héroïne charmante, comme vous. Vous permettez que ce soir je vous appelle Natacha ?
Oh, ça ne tire pas à conséquence. Vous partez demain. Nous ne nous reverrons jamais. » Et, vous comprenez, il est doux pour moi, après une expédition pleine de fatigues et de dangers, d'avoir quelques moments d'intimité avec vous. Vous comprenez, Natacha ?
Oui, elle comprenait. L'expédition pleine de fatigues et de dangers, c'était pour elle qu'il l'avait faite. Et il comptait qu'elle en serait le prix. Il ne disait pas « Je vous remets votre fille et votre collier contre le don de vous-même. » Mais c'était cela qui se trouvait sous la douceur enjouée de ses paroles. Et ce regard sur elle, qui investissait sa volonté, que ses yeux à présent ne pouvaient plus fuir, où elle lisait un désir ardent, ce regard, sans qu'elle en eût bien conscience, la troublait. Elle n'avait plus de force. L'angoisse de ne pas revoir sa fille, la joie de la retrouver, avait brisé sa résistance nerveuse. Gérard devina sa pensée, prit place auprès d'elle et lui saisit les mains. « Natacha, vous vous méprenez sur moi. Si je vous ai rendu votre enfant, je vous rends les perles sans qu'il y ait là, de ma part, la moindre condition. Je suis incapable de calcul. Repoussez-moi si vous voulez. » « Mais ne craignez rien, vous êtes libre. » Disait-il vrai? Et voulait-elle accepter cette liberté qu'il n'offrait peut-être que parce qu'elle ne pouvait plus la reprendre? Elle ne savait pas. Elle n'avait plus de force. Elle s'abandonna. La comtesse Valine partit au matin, emportant ses perles, emportant le souvenir de cet homme dont elle ne savait rien, et qu'elle ne reverrait jamais. Chapitre 5. Trois portraits, deux rivaux. Le lendemain de son arrivée à la villa d'Ivan Baratov, Gérard passa la majeure partie de la journée à dormir. Il avait coutume ainsi de réparer les efforts prolongés et les longues nuits sans sommeil que son exceptionnelle robustesse lui permettait de s'imposer. Après une toilette qu'il prolongea avec délices,
il descendit rejoindre Baratov, qui l'attendait dans son cabinet de travail. Baratov, assis à son bureau, le dos tourné à la porte, regardait une publication illustrée avec tant d'attention qu'il n'entendit pas Gérard entrer. Gérard se pencha par-dessus l'épaule du Russe pour voir ce qui l'intéressait si vivement. C'était une revue intitulée « France-Pologne » et dont la première page reproduisait trois photographies représentant sous trois aspects différents la même femme, très jeune et d'une rare beauté. « Bigre, voilà une jolie personne !» dit Gérard avec un vif intérêt. Baratov tourna la tête. « Oui, hein, est-elle charmante ?»« Fascinante, comme disent les Anglais. Qu'est-ce qui est écrit sous les portraits ?» Il se pencha davantage et lut « De notre correspondante de Paris. Beau geste d'une jeune fille française en faveur d'une loterie ouverte au profit de la maison des laboratoires. Elle est prête à donner tout ce qu'on lui demandera à la personne qui s'inscrira pour 5 millions. » Gérard eut un petit rire. « Tout ce qu'on voudra. Au moins, elle est délurée, la jeune personne. Aussi délurée que jolie, si les photos ne la flattent pas. » « Au naturel, elle est encore plus jolie, » dit Baratov. « Tu la connais ?»« Oui. À mon dernier voyage à Paris l'autre hiver, j'ai rencontré à une matinée de bienfaisance, au cercle interallié, une jeune fille dont la beauté m'a frappée. Elle vendait des programmes. Elle m'en a signé un. Je lui ai offert un verre de champagne qu'elle a refusé sous prétexte que le champagne lui montait à la tête. Ses portraits, c'est elle. Et comment s'appelle-t-elle ? Nelly Rose d'Estol, dit Baratov. Et au même moment, il regretta d'avoir répondu. D'Estol ? S'exclama Gérard. « Mais c'est le nom du Français qui a perdu en Russie les titres que je viens de rapporter. »« Oui, il est mort pendant la guerre, en Roumanie. C'est par la comtesse Valine que j'ai su, il y a 6 mois, que les titres avaient été confiés au comte Valine et que celui-ci les avait cachés là où tu les as trouvés, en attendant qu'il puisse les faire parvenir à Madame d'Estol et à sa fille, Nelly Rose. »« Ah ! « Eh bien, si c'est Nelly Rose d'Estol, je la connais aussi, » dit Gérard. « Oh, en plus jeune. Tiens, regarde, j'ai trouvé ça dans la pochette au titre. » Et il tira de son portefeuille et montra à Baratov la photographie de Nelly Rose à 10 ans. « Tiens, pourquoi l'as-tu conservée ?» demanda Baratov. « Ma foi, je n'en sais trop rien. » Cette figure d'enfant m'a plu, cet air émouvant, ce clair regard. On les retrouve dans les trois portraits. C'est bizarre, avec cet aspect de faire une proposition aussi risquée. La demoiselle doit être en mal de réclame. N'importe, elle est bien jolie. Au bout d'un moment, il ajouta d'un autre ton, « Dis donc, Baratov, tu vas lui rendre, à elle et à sa mère, les titres et le reçu ?» « Parbleu !» dit Baratov. Mais il eut un sourire ambigu que Gérard surprit. « Ah, pas de blague à ce sujet, Baratov. Pour moi, ce dépôt-là, c'est sacré. »« Pour moi aussi, voyons, » affirma le Russe. « Je vais leur reporter tout ça en allant à Paris. »« Hein ? Tu vas donc à Paris ? Oui, bientôt. » Après une pause, Gérard déclara « « Moi aussi. Il n'y a plus rien à faire par ici pour le moment. Ma dernière expédition était déjà dangereuse. Maintenant, je suis brûlé. Du reste, je veux revoir Paris, et surtout aller en Normandie embrasser ma vieille maman. Mais tu pars, toi, pour longtemps ?»« Oui, » dit le Russe. Il n'expliqua pas les deux motifs de son départ. Le désir de jouir librement de l'énorme fortune conquise par ses rapines. Le désir de mettre en sûreté, d'échapper aussi bien aux espions russes qui depuis quelque temps le traquaient, qu'à d'anciens complices récemment sorti de prison et qui voulait le faire chanter. « Je m'en vais dans 15 jours, dit-il. Je ferai le voyage par Berlin et Londres où j'ai des affaires. Et toi ?
Moi, je m'en irai avant toi, dans 1 8aine de jours. Je passerai par le sud de l'Europe.
Oh, je ne me hâterai pas. Je m'amuserai un peu en route.
Nous nous retrouverons à Paris. »
Oui, dit Baratov.
Voyons, dans 3 semaines.
Il consulta un calendrier. Tiens, le 8 mai au soir, je t'attendrai au nouveau palace des Champs-Élysées. Je te télégraphierai l'heure.
C'est ça. Je descendrai à la pension russe d'Auteuil. Et après t'avoir vu, je filerai en Normandie.
Au revoir. Je vais faire un tour jusqu'au dîner.
Seul, Baratov reprit la revue qui reproduisait les traits de Nelly Rose et les regarda de nouveau longuement. À Paris déjà, lors de sa rencontre avec la jeune fille, il avait éprouvé pour elle un sentiment d'admiration où le désir tenait certes plus de place que le respect. Et tout de suite, à la lecture de la revue polonaise, achetée par hasard l'avant-veille, un projet audacieux s'était formé dans son esprit, projet auquel il s'attachait de plus en plus, et qu'il eut déjà mis à exécution, s'il n'y avait pas eu l'obstacle de sa rapacité naturelle. Il recompta les titres que contenait la pochette. Quelle fortune énorme ! Que cette fortune ne lui appartint pas, cela le faisait sourire cyniquement. Ce que Baratov avait entre les mains lui appartenait toujours, ou tout au moins, il s'y taillait toujours la part du lion. Alors, ces millions s'ajoutant aux nombreux millions qu'il possédait déjà, ne lui permettaient-ils pas un sacrifice qui, considérable en soi, pour lui-même n'était pas grand-chose? Ne voulait-il pas désormais jouir de son argent, vivre à Paris, étaler ses richesses, se mettre en relief, faire parler de lui? Enfin, n'était-ce pas l'occasion de prendre une revanche sur Gérard, qu'il avait supplanté auprès de la comtesse Valine? Nelly Rose serait l'enjeu de cette revanche. Nelly Rose, si jolie, et à qui Gérard semblait s'intéresser. D'un geste résolu, le Russe prit dans un tiroir son carnet de chèques, et rapidement en libella un au nom du président de la maison des laboratoires de Paris, et pour la somme de 5 millions. Il signa et barra le chèque, et ensuite, sur une feuille de papier à lettres, écrivit « Mademoiselle, aurez-vous la bonne grâce, le jour même où je vous le demanderai, et quelles que soient les circonstances, de me recevoir, dans votre boudoir, de 7h du matin ? Si oui, vous voudrez bien remettre le chèque si inclus à son destinataire. Sinon, déchirez-le. » Sentiment très respectueux, Ivan Baratov. Il mit le chèque et la lettre dans une enveloppe sur laquelle il inscrivit cette adresse. « Mademoiselle Nelly Rose d'Estol, Maison des Laboratoires, Paris. » Puis, il envoya quelques lignes à sa banque de Londres pour la prévenir à propos du chèque et demander qu'on l'avertît télégraphiquement dès que ce chèque serait touché. Il sortit alors pour jeter lui-même les 2 lettres à la poste. Une semaine passa dans le calme. Gérard préparait son départ, qui devait, on le sait, précéder de 8 jours celui de Baratov. La veille de ce départ, un assez vif incident, fortuitement provoqué, eut lieu entre les 2 hommes. Gérard, mettant son manteau pour sortir, laissa tomber de sa poche, au pied de Baratov, une revue qui se déplia. « Qu'est-ce que ça ? » demanda le Russe. « Tiens, tiens, la revue France-Pologne. Tu en as acheté un numéro ? Mademoiselle Nelly Rose d'Estol t'intéresse donc beaucoup. »
« Pourquoi pas ? » dit Gérard en ramassant la revue.
« Ma parole, tu as l'air d'être jaloux. As-tu l'intention de t'inscrire pour les 5 millions et de t'imposer à la jeune personne par ce moyen ? Il est vrai qu'avec tout ce que tu as raflé depuis des années,
avec ou sans mon aide. Tes moyens doivent te permettre d'être large. »
« Je ferai ce qui me plaira, » dit Baratov. « Ça ne regarde que moi. Mais je te demande de ne pas t'occuper de cette jeune fille. »
Gérard haussa les épaules et fit d'un ton railleur, « Je pourrais te répondre, moi aussi, que j'agirai selon mon bon plaisir. Mais pourquoi te disputer une conquête qui m'est indifférente ?»
Elle n'était pas indifférente à Baratov. Le matin même, il avait reçu de sa banque de Londres un télégramme « Chèque touché ».
Gérard partit le lendemain. Il avait pris congé de Baratov et les deux hommes, sans faire allusion à l'incident de la veille, s'étaient dit adieu avec une apparence de cordialité qui masquait leur animosité. Le 8 mai, ils se retrouveraient à Paris. Gérard, comme il l'avait dit, voyagea sans hâte, s'arrêtant dans les villes qui lui plaisaient, à Prague, à Venise notamment, et dans chaque ville, fréquentant les lieux de plaisir, chassant la bonne fortune de rencontres, il nouait de brèves aventures. Don Juan, expert à séduire et qui sait vaincre vite toutes les résistances. La pensée de Nelly Rose, toutefois, revenait souvent à son esprit. Certes, il n'avait point d'amour pour elle, il n'en avait jamais eu pour aucune femme, mais elle excitait sa curiosité. Qu'était-elle ? Une jeune fille du monde, oui. Une jeune fille ? Demeure assez libre, sans doute, s'il fallait en croire cette annonce extravagante. Pourtant, ce visage, dont il regardait sur la revue les trois aspects, était bien pur, presque enfantin encore, malgré le dessin voluptueux de la bouche, et le regard des yeux était droit et candide. Un soir, à Venise, parcourant un journal français, il ne put retenir un mouvement. Il lisait qu'un don de 5 millions avait été fait à la maison des laboratoires par un Russe nommé Ivan Baratov. Beau geste, célébré en termes dithyrambiques. Oh, diable ! Baratov s'était donc réellement déterminé à l'action. Et pour qu'il eût fait, lui, l'homme cupide, ce sacrifice, son désir devait être bien grand. Et il emploierait n'importe quel moyen pour se faire payer par Nelly Rose. Il s'agissait donc de lui barrer la route, tout de suite, sans perdre de temps. L'idée que cette jeune fille, si délicieusement jolie, et qui, si jeune, ne pouvait être entièrement pervertie et ne saurait sans doute pas se défendre, put devenir la proie du Russe, cette idée était insupportable à Gérard. Il voulait avant tout la sauver de Baratov et lui rendre sa fortune. Et par là même, il aurait le très grand plaisir de la voir et de juger si elle était aussi belle qu'elle le paraissait. Gérard, au matin du 8 mai, arrivait à Paris. Il avait retenu une chambre dans la pension Russe, vaste maison située au fond d'Auteuil et que tenait un émigré, auquel il avait, en Russie, rendu d'importants services, et qui lui gardait une solide reconnaissance. Un télégramme lui fut délivré, daté de Londres, et signé Baratov. Baratov annonçait qu'il serait à Paris l'après-midi même, venant par avion, qu'il arriverait soit à 4 heures, soit à 7 heures, et qu'il attendrait Gérard au nouveau palace. Gérard, en hâte, fit sa toilette, consulta un annuaire mondain et celui des téléphones, déjeuna vite et sortit dès le début de l'après-midi. Il passa d'abord au nouveau palace. Il se défiait de Baratov. Celui-ci débarquerait peut-être plus tôt qu'il ne l'avait dit, pour pouvoir agir sans contrôle. Mais non, le Russe n'était pas là. Gérard, alors, gagna la place du Trocadéro et passa devant la maison habitée par Madame d'Estol et Nelly Rose. Il était décidé à ne pas entrer et à ne demander au concierge aucun renseignement. Il voulait seulement voir l'endroit où vivait la jeune fille. Il se rendit ensuite, derrière le Champ de Mars, à la maison des laboratoires. Là, il interrogea le concierge qui le renseigna. Oui, Mademoiselle d'Estol était venue travailler. Cette petite auto arrêtée au bord du trottoir, c'était sa voiture. Gérard s'éloigna de quelques pas et traversa la rue. Il regarda sa montre, 2h40. Il voulait retourner au nouveau palace à 4h, puisque Baratov serait peut-être alors arrivé. Une heure restait. Gérard, sans projet fixe, sans plan précis, sans même savoir si Nelly Rose allait sortir, à tout hasard, sur le trottoir, attendit.